Radio Libertaire 89.4. Oui, ben, Radio Libertaire.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste. Cette semaine, deuxième partie d'un entretien avec Alaric Perrolier de La Mémoire et la Mer, les éditions. Au cours de laquelle il sera toujours question de l'intégrale 1944-1959, la vie moderne.
Albums essentiels, très importants, qui sont Les Fleurs du Mal, le premier, avec bien évidemment des poèmes de Charles Baudelaire mis en musique et interprétés par Léo, avec notamment la présence de Jean-Michel Defay déjà, qui n'est pas encore en tant qu'arrangeur, mais en tant que pianiste.
Oui, ça, c'est... Donc, je t'avais dit que, donc, du coup, sur l'album Le Piano du Pauvre, il y a Cardon qui arrive.
Ouais.
Sur l'assemblage qu'on a fait, donc posthume de La Rue, qui est intitulé La Rue, là, on a Rosso qui arrive, Barthélémy Rosso, le guitariste. Et là, effectivement, sur cet album, arrive au piano Jean-Michel Defaille. Alors, Defaille, à ce moment-là, il a... Je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 25 ans, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Mais il sort du conservatoire. C'est la même génération, c'est la même classe du conservatoire que Michel Legrand. Bon. Michel Legrand, c'est le plus fonceur, c'est le plus, peut-être celui qui a le plus de facilité de cette génération-là. Et qui a déjà... Il n'était même pas majeur qu'il faisait déjà des arrangements pour la chanson parce que son père, Raymond Legrand, avait un orchestre et était déjà dans les variétés.
Ça aide.
Donc, en fait, je pense que Defaille, qui composait des opérettes ou des choses, enfin des choses classiques, ne voulait pas s'orienter vers la... Je te raconte un peu la vie de Defaille, mais je l'ai rencontré, j'ai un peu parlé avec lui. D'accord, il est toujours en vie, il est toujours de ce monde. Jean-Michel Defaille, il vit à Saint-Mandé, Saint-Cloud, je crois, Saint-Cloud plutôt. Très gentil. Il se destinait pas à l'enseignement. Donc, peut-être entraîné ou appelé, ou suivant l'exemple de Legrand, il s'oriente vers les variétés. Et du coup, il commence un peu à arranger des choses pour différentes chanteuses, essentiellement. Mais il est aussi pianiste un peu. Mais il voulait pas vraiment. Lui, ce qu'il cherchait, c'était orchestrer. Ça l'intéressait pas d'être pianiste d'accompagnement. Mmh. Mais là, il se trouve que, donc, je ne sais pas, on ne sait pas exactement par quel biais il rencontre Léo Ferré, mais il se retrouve embarqué dans cet album. Et il se souvenait très bien il n'avait pas arrangé, et qu'en fait, Léo n'avait pas forcément, lui aussi, écrit les arrangements. En fait, c'était quelque chose de très collégial. Ils se sont retrouvés ensemble, et ils ont un peu travaillé ensemble en studio, se sont mis d'accord sur des grilles d'accords, sur des harmonies, et puis peut-être Defaille a apporté sa sensibilité. On voit au piano qu'il y a des morceaux où Léo joue du piano quand il est seul, et puis il y a des morceaux où il y a une petite formation, et c'est Defaille qui tient le piano. Et bah voilà, Defaille, le son de Defaille, les arpèges qu'il fait, c'est pas ce que fait Léo. C'est peut-être plus classique, mais c'est très très c'est raffiné. En fait, ce qui se passe là, c'est moi je trouve dans cet album est... donc c'est le premier album dédié à un poète, parce que Léo avait fait Pauvre Rue de Bœuf et il avait fait Apollinaire, mais là c'est le premier où il décide de faire un cycle de chansons à partir de poésie. Donc il fait Les Fleurs du Mal, il fera Aragon. Et après, il va bosser en même temps Verlaine, puis il va décider de l'associer à Rimbaud. Il va faire Verlaine-Rimbaud en 64, et il va faire un deuxième Baudelaire en 67. Et après, il va en travailler un dans les années 70, qui ne sera édité que dans les années 2000, voilà. Des maquettes de travail. Baudelaire, c'est celui c'est le poète que Léo a le plus mis en musique. Donc là, il y en a 12. Il prend des poésies, par exemple L'été, à celle qui est trop gaie, Les Métamorphoses du Vampire, c'est des poésies qui ont été censurées à l'époque.
Absolument.
Donc je pense qu'il se fait un malin plaisir de dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi je vais venger Charles post-mortem. Absolument. 57, il faut savoir que c'est le centenaire de la publication, je crois, des Fleurs du Mal. Donc, tu vois, c'est l'occasion qui fait le larron. Je pense qu'il s'est dit, bon, il y a un truc à faire, je le fais. Peut-être aussi parce que, justement, je te parlais par rapport à 8 chansons nouvelles du compagnonnage avec Breton. Je pense que Breton le met dans un état d'esprit, littérature, poésie, et que, bon, tu vois, il a fait Le Guinche, il a fait Paris Canaille. Il y a une part de lui qui, je pense, a peut-être envie de faire un peu autre chose. Tu vois, de la chansonnette rythmée, sympathique, dansante, il l'a fait. Je suis pas sûr qu'il ait envie de faire que ça. Et donc, si tu veux, sur Les Fleurs du Mal, voilà, c'est la rencontre avec Defaille. Il y a qui d'autre ? Il y a Rosso à la guitare, et puis il y a Cardon à l'accordéon, et tu as du saxophone aussi. Ce qui est intéressant dans ce disque, je trouve, c'est l'instrumentarium. C'est la façon dont sont agencés le piano, la guitare de Rosso, qui est très comme ça, avec des notes suspendues. Il y a quelque chose qui se met en place qui, à mon avis, va être exploré plusieurs années après par Léo, musicalement, sur comment on fige le temps, comment on étire les choses, on suspend les choses. Et je pense que c'est lié aussi à l'apport de Defaille. Je pense que Defaille apporte beaucoup de choses à la musique de Léo, et peut-être l'aide à se... je sais pas, je pense que c'était déjà présent, mais qu'il y a une convergence de vues entre eux, une de sensibilité musicale. Tu vois, je pense que tous les deux aiment Ravel, tous les deux aiment Debussy, ils ont les mêmes références, en fait, et les mêmes envies. Et donc, De Faille est un très bon serviteur de la vision musicale de Léo. Il le trahit pas trop. Alors, après, on pourra, tu vois, dans la période Barclay, on peut discuter de certains arrangements qui sont plus bâclés, pas forcément inventifs. Un peu dans l'air du temps, bon, mais il a fait des merveilles aussi. Et ça marche bien avec l'univers musical de Léo. Et là, cet album, tu le vois de manière assez. Avec un vrai feeling de musiciens qui jouent entre eux, parce que si tu veux, il n'a pas arrangé, il n'a pas pris le pouvoir en disant voilà, on va faire comme ça. Et du coup, c'est très. Je sais pas, c'est intimiste. Et... Après, moi, je trouve qu'il y a certaines mises en musique qui sont plus réussies que d'autres. Cet album, en fait, il est pionnier, je trouve, dans la démarche, tu sais, de mise en musique des poètes, mais c'est peut-être pas il est pas arrivé, tu vois, c'est pas le disque d'Aragon par exemple, ou le Verlaine Rimbaud, où là il est vraiment dans le chef-d'œuvre. Là, il met en place quelque chose, quoi. Il y a des très belles réussites. Moi, j'adore À celle qui est trop gay, qui est un poème un peu vicieux, tu vois, sur une femme endormie à qui le poète veut faire une plaie ouverte.
Mm-hmm.
Et le deuxième album, c'est donc La chanson du mal-aimé, qu'il va enregistrer cette fois-ci bel et bien, alors.
Bah, tout est déjà prêt, donc si tu veux, oui. L'histoire de cet album, c'est que c'était pas prévu du tout qu'il fasse ça, mais en fait son contrat s'arrête et son directeur artistique, là, Edouard Dory, lui dit, bon, alors on lui propose des sous, quoi, en gros. Une avance, je sais plus trop quoi. Et Léo, par amour de l'art, lui dit, non, écoute, moi je prends pas les sous, mais par contre, tu me payes les sessions pour enregistrer mon oratorio. Je veux qu'on enregistre la chanson du mal-aimé. Ouais. Et donc l'autre s'arrange et tout, il y avait un deal, et en fait il obtient l'orchestre de la radiodiffusion qu'il n'avait pas eu en 1953 quand il avait proposé son manuscrit au comité de la musique, tu vois. Donc c'était un peu une revanche pour Léo aussi, tu vois. Ouais. Et donc il enregistre la chanson du mal-aimé, et c'est ce qui l'a sauvé de l'oubli, qu'il réenregistrera chez Barclay en 72, mais cette fois en le chantant lui-même, parce que là la particularité c'est qu'en fait il a, avec l'aide de sa femme, découpé, tu sais, c'est un très long poème, je sais plus combien il y a de vers, mais c'est des quintiles, hein, c'est des strophes de 5 vers, et puis il y en a je sais plus combien, mais c'est très très long, et en fait il n'y a pas comment dire, c'est pas une œuvre dramaturgique, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de, tu vois, c'est une lente déambulation dans des états émotionnels qui tournent autour de la déception amoureuse, et en fait, avec sa femme, pour que ça passe un peu sur scène, elle l'avait aidé à découper, si tu veux, le poème en rôles. Alors, il y avait le mal-aimé, il y avait son double, il y avait l'ange, et puis il y avait le personnage de la femme. Et donc, ils avaient fait, avec une mise en scène un petit peu, tu vois, sur un damier, les jeux de l'amour et du hasard. Et donc, c'est une manière, si tu veux, de faire, comment dirais-je, de sémantiser, pour utiliser un terme savant, de faire sonner le texte, résonner le texte d'une manière... c'est une interprétation en soi, que de dire tel passage du poème, ce serait la voix, le poète prend la voix de la femme qui lui parle, qui s'adresse à lui. C'est plutôt bien fait, donc c'est incarné par des chanteurs lyriques. Donc là, il ne chante pas dans la chanson du mal-aimé, il dirige l'orchestre, c'est tout. Mais quand il le réenregistrera, il vira tout ça, il considérera que c'est... Parce qu'en fait, il se disait à l'époque, et c'est, on le comprend, il se disait que c'est pas possible de faire chanter à un seul chanteur tout ça d'un bloc, en fait. Et c'est pour ça qu'ils avaient essayé d'introduire de la variété avec des rôles et donc des tessitures, tu vois, musicales, que quand Léo va chanter lui-même, par exemple, la partition, les parties chantées par la femme, il peut pas les chanter, il a pas la voix. Donc, il dira le texte. Et personnellement, moi, je préfère la version dite par Léo, chantée par Léo, parce que le fait qu'il dise aussi à certains moments le texte, tu vois, on est plus dans quelque chose d'un conteur intime, enfin, tu vois, il y a plus de relief, en fait. En fin ouais. Mais cette version-là est quand même très chouette, quoi. Et donc, on a adjoint en bonus la symphonie interrompue, qui était donc dans le concert de 54, là, le concert unique à Monaco, et qui est donc quelque chose qu'il a écrit assez vite, en complément de programme, parce que le prince régné lui avait dit « Bon, c'est bien, votre oratorio, mais ça fait même pas une heure, ça fait 45 minutes, c'est un peu court, faudrait... »
Faut meubler un peu.
Voilà, faut, pour faire une vraie soirée, il faut une première partie. Et donc, il a composé cette symphonie.
Après ces deux albums consacrés aux poètes, donc Baudelaire pour le premier et La chanson du mal-aimé pour le second, on a en disque 10 de cette intégrale, concert de Bobino, enregistré entre les 3 et 15 janvier 1958, avec effectivement La Fortune, comme dans La Haute, Java Partout, Monsieur Montpassé, Le Gain, Cheval Même Côte Paris, Pauvre Rue de Boeuf, Les Indifférentes, qui est vraiment une chanson...
Et qui est une chanson que Léo n'a jamais enregistrée en studio. Parce que souvent, après, dans des concerts ultérieurs, par exemple, la Bobino en 69, il chante Marie Zibyl, par exemple, de Apollinaire, il ne l'a jamais enregistré en studio. Il n'y a que des versions live. Après, il le chante au Théâtre des Champs-Élysées, au TLP, mais c'est que des versions live. Il chante aussi le Printemps des Poètes à Bobino 69, qui n'a jamais enregistré. Donc souvent, après, dans les concerts, il propose comme ça un peu au public, il essaye des chansons qu'il a mises en musique, et puis il y en a qui font pas leur chemin jusqu'à l'album, tu vois. Donc c'est aussi intéressant pour ça, les lives. Et donc là, c'est le premier concert où il y a donc, du coup, un morceau qui n'existe que sur ce disque, qui est Les Indifférentes.
J'ai pris à Maki son costume mais sa complainte sans appel, qu'il se la chante à Whitechapel. Je suis allergique à la brume, j'ai acheté avec les rentes que me rapportent mes chansons un taulier de barbizon, une guinguette pas marrante, même au plus beau de la saison. C'est pour mes belles indifférentes que je voulais mettre en prison. Ces filles-là sont toutes celles qui, jadis, quand j'avais du cœur, m'assassinaient d'un air moqueur, ou bien se prétendaient pucelles. Leur prénom, c'est monnaie courante. L'important, c'est qu'elle soit là, en frêle robe de gala, et qu'elle soit restée charmante. Mais Virginie de cinéma, elles ne sont plus indifférentes, elles ont maintenant peur de moi. Elles ne seront plus à personne, elles garderont leur beauté, pas plus qu'il n'y aura d'été. Pour elles ne viendra l'automne. Dans ce jardin où se lamente à tout jamais le vent d'hiver, sur le pick-up, c'est le même air d'une musique sidérante et qui leur tape sur les nerfs. Et mes belles indifférentes sont sensibles à ce truc pervers. Il faut les voir quand je radine, grandis par mes talons bottiers, et que je prends un air altier en faisant siffler ma badine. Elle m'apporte déférente mes cigarettes et mon whisky. Mais je ne dis jamais merci et garde une moue méprisante à la manière de maquis. Et mes belles indifférentes de leurs mains glacées me supplient. Elles supplient pendant des heures, ce n'est pas du travail bâclé. Et tout à coup, je ferme à clé et je les laisse là qui pleurent. N'écoutez pas les gens qui mentent en disant qu'ils ont rencontré l'une ou l'autre. Ce n'est pas vrai, c'est des sosies ou des parentes. Les vrais de vrais sont enfermés dans ma guinguette pas marrante, d'où elles ne sortiront jamais. Mais vrai, mes belles indifférentes, que je n'ai pas cessé d'aimer.
Dernier album à proprement parler de cette intégrale, qui s'intitule Encore du Léo Ferré.
Eh oui, tout est dans le titre. Tu vois, après les albums poètes, il revient avec cette espèce de... comme une excuse de se présenter devant les auditeurs encore sous son nom, quoi.
Une excuse
ironique. Oui, bien sûr. C'est genre, vous allez encore bouffer du Léo. Et oui, c'est encore moi, tu vois.
Ouais. C'est lui qui choisissait le titre de ses albums à ce moment-là.
Je pense que oui, mais je... Si tu veux, il y a très peu de titres, en fait. Par exemple, la chanson du mal-aimé, c'est un titre. Mais par exemple, 8 chansons nouvelles, c'est c'est le titre qui est au verso de la pochette originale.
Ouais.
Encore du Léo Ferré, c'est sur la pochette. Bon, Les Fleurs du Mal, c'est un. Mais par exemple, si tu prends Le Piano du Pauvre ou Paris Canaille, ce sont des albums qui n'ont pas de titre, ni au recto, ni au verso. Donc, l'usage l'usage dans l'industrie du disque veut qu'on utilise le titre de la première chanson ou parfois de la dernière, enfin de la chanson la plus connue. Paris Canaille, c'est la dernière de l'album, mais Le Piano du Pauvre, c'est la première. La Rue, bon, bah, on a pris la première chanson. C'est pas forcément un titre génialissime, La Rue, mais bon, c'est comme ça. Et bon, moi, personnellement, 8 chansons nouvelles, je trouve que le titre Le Guinche aurait été mieux, mais là, il y avait un titre qui était sur le verso de la pochette. Quant à savoir si c'est Léo qui a décidé de ce titre ou si c'est, tu vois, le service graphique de la maison d'édition ou le directeur artistique. Quant à des titres qui sortent de l'ordinaire, hors album poète, par exemple, en 66, il fait un album, tu sais, Léo Ferré, 1916-1900, 3 petits points, comme une épitaphe, tu vois. Ça, je pense que clairement, c'est un choix de Léo.
Ouais, bien sûr.
Et après, à partir des années 70, t'as des titres qui sont souvent un titre tiré d'une des chansons. Tu vois, il n'y a plus rien. C'est sur la pochette. Donc, et puis parfois des titres qui sont différents des chansons présentes. Mais Léo, sur les titres, il est toujours très sobre. Hein. Il ne fait pas trop de... Par exemple, tu vois quelqu'un comme Thiéphaine, c'est quelqu'un qui a des titres à rallonge, très littéraires, très accrocheurs, qui s'amuse avec les titres, vraiment. Léo, il est très fonctionnel, quoi.
Ouais,
c'est
voilà.
La fortune, t'en as, la grande vie, tu vois, c'est ouais. Informatif. Il fait très peu des titres. C'est rare, par exemple, un truc comme Le Conditionnel de Variété. Tu vois, c'est un titre qui est déjà un petit peu plus second degré. Enfin, qui est un commentaire du contenu de la chanson. Mais bon, quand il fait La Lettre ou quand il fait La Mémoire et la Mer, c'est un beau titre, La Mémoire et la Mer. Mais c'est, voilà, tu vois, il n'y a pas de...
Ouais.
Je pense qu'il visait à la simplicité. Donc, si tu veux, là, les titres, encore du Léo Ferré, je ne peux pas te dire, on ne sait pas si c'est de Léo.
On ne sait pas, ouais. Et sur cet album, on trouve La Vie Moderne, qui va donner son nom à
la fameuse Vie Moderne.
À l'intégrale. Et puis quelques autres aussi, quelques jolis.
Il y a encore Cosimon, là, il y a une bonne fournée Cosimon. Parce que là, en fait, donc il y a ces 10 titres, mais on a assemblé aussi un 45 tours qui est sorti, qui a été enregistré fin 57 et qui, je pense, est sorti soit en décembre, soit en janvier, soit en décembre 57, soit en janvier 58. Toujours, tu sais, comme La Rue, dans l'idée d'avoir quelque chose de récent à proposer pour le passage scénique,
d'accord. En fait,
à Bobino, qui passait en janvier. Et donc, du coup, c'est d'ailleurs, tu noteras que comme La Rue, tout ça, c'est des chansons très rythmées. C'est des trucs. Oui. Et Java Partout et La Zizik qui sont des chansons entraînantes. Et puis Mon Sébasto qui est de Cosimon, qui est une chanson très mélancolique que j'adore. Moi, un de mes Cosimon Ferré préférés. Après, l'album pour moi est plutôt mélancolique que. Justement, c'est que tu vois, on a l'impression qu'il sort ce 45 tours en se disant ok, j'envoie la sauce, on est entraînant. Pour Bobino, pour aller entraîner le public. Et puis, déception ou pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Demi-succès, quelques mois après, il fait encore du Léo Ferré. Et les titres, moi, je les trouve, c'est la chanson triste. L'été s'en fout, c'est une chanson d'amour, érotique, douce. Le jazz band, c'est ironique, où il se moque un peu du jazz. Dieu est nègre, c'est une chouette chanson, je trouve, sur... Je sais pas trop de quoi ça parle, du Henning. C'est sur l'histoire d'un noir qui joue de la trompette. C'est un peu, on se demande si c'est un peu parodique, tu vois, sur les négros spirituels et sur les musicalement et puis sur les jazzmen qui venaient beaucoup à Saint-Germain-des-Prés, tu vois, parce que c'était une époque et un lieu de liberté pour eux, tu vois. Ils n'étaient pas du tout. Il y avait beaucoup moins de racisme qu'en Amérique. Donc Léo en a côtoyé. Il explique qu'il avait eu l'idée de cette chanson. En croisant, sortant d'un bar, un noir dans le caniveau avec une trompette, une bouteille ou une trompette, je ne sais plus. Sans doute une bouteille. Et il a divagué sur ça. Alors on pense à Miles Davis aussi, parce que Gréco a chanté cette chanson. Gréco qui a été avec Miles Davis. Donc c'est rigolo, tout ça circule. Mais c'est plutôt. Je trouve que c'est un album encore du Léo Ferré qui. Bon, c'est un avis personnel encore. Hein, d'autres te diraient, je sais que Mathieu par exemple, il trouve que c'est un album, je pense pas qu'il soit d'accord avec moi sur cette lecture des choses. Moi je trouve que c'est un album qui est en demi-teinte, c'est-à-dire un peu un pied dans le repli vers le passé et le, tu vois, Les Temps Chimériques, pour moi c'est une belle chanson, mais c'est une chanson un peu en dehors du temps. tu vois. C'est le contraire, c'est l'exact opposé, en fait, de la vie moderne. Pour moi, dans la vie moderne, tu vois, Léo, il embrasse son époque et il la prend à bras le corps, il la critique, il est batailleur, il est dedans, quoi. Il va de l'avant, quoi. Et dans les temps chimériques, il est dans son monde onirique, idéal, en dehors du temps, en dehors de tout. Et pour moi, c'est une forme de, peut-être de, tu sais, Léo, c'était quelqu'un de très sensible, alors de repli, de protection, de... Et le fait qu'il y ait les deux sur l'album, c'est un peu ambivalent, parce que tu te dis, bon, il n'est pas totalement conquérant. Il fait un album, il appelle ça encore du Léo Ferré. Est-ce que, suite à la déception de Bobino, parce que ça accroche pas comme il aurait voulu que ça accroche, est-ce qu'on peut pas y voir une sorte de la chanson triste aussi, qui est une chanson un peu, je vais pas dire défaitiste, mais... tu vois, je me souviens plus, je pourrais pas te citer des passages du texte, mais dans mon souvenir, c'est une chanson oui, de perte, en fait. Et donc, le fait qu'il choisisse de mettre ces chansons-là sur son album, plutôt que d'autres qu'il avait à disposition, ça dit quelque chose de son état d'esprit. Mais ce qui est marrant, c'est que, comme je te disais, c'est des cycles courts, parce que après, bah, l'album d'après, en fait, officiel, c'est Paname.
C'est Paname.
Et Paname, c'est entraînant.
Pour le coup, oui, clairement.
Mais donc, je pense qu'il finit un petit peu... Quand je disais en demi-teinte, je ne parlais pas de la qualité, je parlais de son état d'esprit, tu vois. C'est comme ça que moi, je le perçois. Mais, donc, tu vois, c'est intéressant de voir que, sur tous ces albums, il y a quand même une trajectoire de l'artiste, puis de l'homme, quoi. Quand on commence un peu à creuser, enfin, moi, je vois des hauts, des bas, des attentes déçues, des tentatives qui n'aboutissent pas, et puis ça ressurgit plus tard...
Quand l'appel bat sur ta porte close, donne-lui du feu pour l'amour de Dieu. Si ta flamme est morte et que tout repose, elle s'en ira, je n'ai pas fait mieux. Si ta flamme est morte et que tout repose, elle s'en ira, je n'ai pas fait mieux. Les fleurs de ma vie étaient roses blanches, je les ai données à tous mes amis pour les effeuiller entre quatre planches. J'aurais bien mieux fait d'en fleurir ma vie pour les effeuiller entre quatre planches. J'aurais bien mieux fait d'en fleurir ma vie. J'avais des habits taillés aux nuages, j'avais des cheveux comme des drapeaux, et flottait au vent ma crinière sage. L'or, j'ai tout perdu, restait que la peau. Et flottait au vent ma crinière sage. L'or, j'ai tout perdu, restait que la peau. Je m'en suis allé sous 10 pieds d'argile, coincé nez à nez par un ciel de bois. Et 10 ans mes vers, ah mes vers dociles, qui m'auront rimé autrement que moi. Et 10 ans mes vers, ah mes vers dociles, qui m'auront rimé autrement que moi. Quand la peine bat sur ta porte close, donne-lui du feu pour l'amour de Dieu, et s'embrasera la dernière rose que j'irai cueillir entre deux adieux. Et s'embrasera la dernière que j'irai cueillir entre deux adieux.
À la fin de cette intégrale, Il y a donc trois CD qui regroupent ce qui est appelé comme documents. Et là, pour le coup, là, on a quand même un grand nombre d'inédits, me semble-t-il.
Alors ça, c'est un peu la grosse carotte pour les bons connaisseurs de Léo qui ont déjà tout. Ouais. Là, il y a des choses vraiment peu connues, des choses rares et puis des choses totalement inédites qui n'étaient jamais sorties avant. Donc, évidemment, c'est ce qui concourt aussi à faire qu'au-delà du fait d'avoir tous les albums tels qu'ils ont existé, on a en plus un contenu parallèle, enfin des petites choses. C'est là que se nichent les premiers enregistrements avant les enregistrements officiels. Donc il y a des choses que Léo a enregistrées de son côté à Radio Monte Carlo, puis des choses à la radio, et puis oui, en fait tout ça provient des archives radio essentiellement.
Alors sur ces deux disques, enfin sur ces trois disques, j'allais dire les deux, pourquoi je pense aux deux, parce qu'on va en isoler un tout de suite, c'est celui qui s'appelle De sac et de cordes, et qui est donc un récit lyrique qui est écrit et composé par Léo. Qu'est-ce que c'est, ce De sac et de cordes? C'est un programme de radio?
Oui, c'est une dramatique radio, tu sais qu'on dit une dramatique, c'est-à-dire une sorte de feuilleton. Enfin, ce n'est pas un feuilleton dans le sens où ce n'est pas feuilletonnant, il n'y a pas plusieurs épisodes, mais c'est une émission, enfin c'est une dramatique, c'est-à-dire une fiction avec une histoire, un début, un milieu, une fin, qui dure une heure et quelques à peu près, que Léo a concocté à partir de tout un ensemble de chansons, de poésie à lui, en chantier, en musique ou pas en musique. Il a un peu agencé tout ça avec une narration en prose. Et son idée, c'est qu'il a fait ça, il le dit, hein, en pensant à Gabin, Jean Gabin. Et Jean Gabin, à ce moment-là, effectivement, il a eu une première carrière dans sa jeunesse vraiment très glorieuse dans les années 30. Bon, il y a eu la guerre et tout ça, il y a un coup d'arrêt. Et là, il s'est pas relancé vraiment encore cinématographiquement dans espèce de figure un peu du Gabin patriarche des années 50 puis 60. Et donc du coup, je pense que Léo s'est dit ouais, il serait assez partant pour le faire. Et puis comme en fait, c'est pas totalement comment dirais-je, inapproprié dans le sens où il y a beaucoup d'argot. Parce qu'en fait, c'est à la fois narratif et en même temps c'est du Léo, c'est-à-dire que c'est quand même une déambulation d'un narrateur qui va vivre plusieurs expériences. C'est un peu picaresque, quoi. Il va rencontrer des personnages, une femme, puis après des pirates. Bon, il va aller balloter d'expérience en expérience. Et puis finalement, c'est très critique sur la société, le mensonge social, et puis donc l'ordre bourgeois. C'est une forme de, comment dirais-je, de profession de foi, à la fois existentialiste, je dirais, et puis anarchiste, mais même si c'est pas revendiqué comme tel. Et donc, le narrateur est joué par Gabin. Et je trouve que il le fait très très bien. Gabin est savoureux, quoi. Ça n'a pas vieilli, il y a une truculence. Et en écrivant le verbe de Léo, comme ça, un petit peu piquant, avec ce qu'il faut d'argot, de côté populaire, mais en même temps une finesse d'observation, un petit côté cruel et tout ça, Gabin, on sent qu'il a plaisir à dire cette prose et ça fonctionne super bien, quoi. Alors après, il a réussi, par cette espèce de narration, de déambulation, à agencer des bouts qui n'avaient rien à voir entre eux. C'est un grand patchwork, en fait, hein. Il y a des bouts du flamenco de Paris, enfin des trucs qu'il a écrits avant qui ne sont pas faits pour ça. Donc, en fait, ça sent un peu l'œuvre de circonstance, quoi. Il a peut-être eu une ouverture à la radio. Il s'est dit, OK, je vais toucher un cachet. OK, c'est l'occasion d'enregistrer de la musique symphonique, parce que, justement, tous les accompagnements sont souvent symphoniques. Et alors, il assemble tout un casting autour de Gabin, de chanteurs et de chanteuses, dont des chanteurs lyriques. Lui, il chante une chanson. Il y a sa femme qui dit un texte. Oui, enfin, c'est tout un... Alors, ça fait un peu Caverne d'Ali Baba. Ça part un peu dans tous les sens. Mais par sa narration, il arrive à faire quelque chose de cohérent. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été diffusé en 51, janvier 51. Ça a peut-être été rediffusé une ou deux fois dans les années 50, et puis après, pouf, ça sombrit dans les archives, dans l'oubli, quoi.
Ça a été retrouvé où, alors, du coup ?
Alina.
Alina, ouais.
Alina, ouais. Ouais. Alors, il y a beaucoup de passages dits, de narration par Gabin, avec ou sans musique, d'ailleurs, qui l'accompagne. Et il y a des moments orchestraux très beaux. Vraiment, là, on sent... Alors, l'enregistrement de l'orchestre, et c'est les moyens techniques de l'époque. Hein, la voix de Gabin est très claire, très bien. Mais sur la musique, elle est un peu étouffée derrière. Elle est pas... Mais c'est... Donc, ça porte son âge. Mais c'est vraiment très surprenant. Parce que Léo avait dans sa besace plusieurs projets comme ça, un peu scéniques, dialogués. Il y avait un truc qui s'appelait Les Noces de Londres, qui restait sur le carreau. Il avait un projet d'opéra qui s'appelait La vie d'artiste, comme la chanson. Qu'il a laissé en friche. Et donc ça, c'est le seul truc qui a trouvé un aboutissement à cette époque-là. Et c'est assez étonnant parce que c'est en 51, c'est-à-dire qu'il n'a enregistré que les 78 tours là, du temps des Roses Rouges, qui ont été commercialisés comme ça, mais qui n'ont pas été spécialement... qui n'ont pas spécialement connu le succès. Et puis, il est toujours pas connu, quoi. Et il se retrouve à la tête d'un gros machin comme ça, avec plein de musiciens, des chœurs, tout ça.
Avec du monde, quoi. Il y a les frères Jacques, il y a pas mal d'interprètes.
Il y a Claire Leclerc, qui est une copine à lui des débuts. Je pense que c'est peut-être même une des premières à le chanter. C'est pas la première à l'enregistrer, mais à le chanter sur scène, je pense que c'est sans doute une des premières.
Il chante en amour.
Voilà. Donc c'est un peu de bric et de broc, il y a un peu de tout, mais c'est... C'est vraiment une belle surprise pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir. Parce que dans le ton de Gabin, on sent la plume de Léo. Quoi. Enfin, ouais. Vraiment, il y a un truc.
Ouais, ça fait une belle rencontre de quoi du coup. Quoi.
Ouais.
Parce que bon, la voix de Gabin, c'est quelque chose aussi quand même. Quoi. Ouais, la plume de Léo, bien, ouais. On est convaincu ici, il n'y a pas de souci. Mais la voix de Gabin, c'est vrai que quand même, c'est aussi quelque chose. Quoi. Voilà, donc il y a celui-ci, et puis il y en a deux autres, alors là, pour le coup, qui n'ont pas de ligne directrice. Comme,
tu peux dire que ce sont des compilations.
Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés, ces documents? Alors, c'est Lina aussi? Non, c'est pas Lina,
alors,
là, pour le coup.
Je pourrais pas te répondre pour tout, parce que moi, du coup, je n'étais pas vraiment en première ligne dans la
constitution de ce truc-là.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de Alain Remaker, dont c'est vraiment le métier de fabriquer des disques, et de Mathieu Ferré, avec le concours de Dénicheur. Par exemple, il y a un document, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui s'appelle « J'ai tant rêvé »,
oui,
qui est le seul morceau dont la musique et le texte n'est pas de Léo, sur la totalité du coffret. Et Léo ne fait que chanter.
Ah, c'est notable,
et il est accompagné au violon par Stéphane Grappelli.
Grappelli, alors là, ça... C'était...
Alors ça swing, et puis c'est une chanson très crooning, quoi.
Ouais.
Qui est très charmante, qui date de 1950, que Léo a enregistré, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est dans le cadre...
À Londres.
Dans le cadre de... à Londres, il était parti, je crois, en janvier 1950, pour jouer un tout petit rôle dans un film de Basil Dearden, qui était un Anglais, qui a fait assez... que les cinéphiles connaissent, quoi. Il a fait pas mal de films, c'est un cinéaste plutôt reconnu de cette époque-là. Et ce film s'appelait La Cage d'or. Il a un tout petit rôle, hein, de pianiste accompagnateur dans un cabaret. Mais on le voit à l'écran, une belle qualité d'image, on entend sa voix et tout. Et donc, moi, je n'ai pas vu le film. Donc j'ai vu les extraits où Léo apparaît, mais je n'ai pas vu le film. Je ne me souviens pas avoir entendu « J'ai tant rêvé » dans le film, mais sans doute que ça a été enregistré pour pouvoir être utilisé dans la bande-son, je ne sais pas.
D'accord.
Et ça a été retrouvé, ça, par un collectionneur que je salue ici, s'il nous écoute, qui s'appelle Daniel Dallaguarda. Ah. Qui est donc un dénicheur émérite, qui, je ne sais pas exactement mais où il l'a retrouvé, ni comment il l'a retrouvé, mais c'est lui qui a retrouvé ça. Donc voilà, il l'a envoyé à Mathieu, et donc on l'a inclus là-dedans. Mais c'était pas dans l'INA, c'était perdu dans des piles de disques, je ne sais pas où il l'a trouvé, chez un disquaire, ou en faisant des brocantes, je ne sais pas.
J'ai tant rêvé de vivre un grand amour, un grand amour qui durerait toujours, que j'ai gardé pour elle tous mes trésors de tendresse. Les songes de mes nuits, mes illusions de jeunesse, j'ai tant rêvé de la connaître un jour, qu'elle doit venir m'apporter sans retour le grand bonheur que follement mon cœur attend toujours. J'ai tant rêvé de vivre un grand amour. Pourquoi faut-il que rien ne soit durable? Le feu le plus ardent brille et s'éteint. Les fleurs, hélas, ne vivent qu'un matin. Tous les serments sont des châteaux de sable qu'emporte au loin la vague de l'oubli. Pourtant, l'avenir me sourit. J'ai tant rêvé de vivre un grand amour. Un grand amour qui durerait. Pour elle tous mes trésors de tendresse, les songes de mes nuits, mes illusions de jeunesse. J'ai tant rêvé de la connaître un jour. Elle doit venir m'apporter sans retour le grand bonheur que follement mon cœur attend toujours. J'ai tant rêvé de vivre un grand.
Il a aussi retrouvé la bande-son des Travailleurs de la... Non, des Hommes de la Nuit, qui est un court-métrage sur les mineurs, là, qui avait été commandé par les Charbonnages de France.
Là, ça, c'est une merveille, ça.
Et Léo avait fait la musique. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de ce truc-là, je la connais pas très très bien, mais Léo avait été sollicité pour écrire le commentaire, d'accord, dit par Reggiani. Et je ne sais pas plus le détail, mais en fait, en gros, il y a un désaccord avec la production pour lui faire changer certaines choses, en fait, dans son commentaire. Et Léo, tu sais, orgueilleux comme il était, ouais, dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, vous enlevez mon nom. Et donc, en fait, il n'est pas crédité comme étant l'auteur du générique, et donc il y a eu sans doute des petites coupes, mais ce que dit Reggiani, c'est du texte de Léo. D'accord. Voilà, et donc c'est intéressant, parce que c'est un extrait, sa musique est symphonique à Léo, donc c'est un autre exemple, après de sa quête corde, si tu veux, d'orchestre qu'il arrive à diriger, avant le fameux concert à Monaco où il fera le mal-aimé, la symphonie interrompue, et avant la fameuse séance où il fait « Merci mon Dieu, graine d'ananas » en symphonique. Il y a pas mal de... En l'écoutant, moi je connaissais pas du tout, hein, j'ai découvert dans le coffret, tu vois, il y avait des trucs que je connaissais pas. La bande-son du film, et le film a été retrouvé par Daniel, toujours, Daniel de la Guarda, mm-hmm, qui l'aura envoyé. Mais pour le reste, les archives, c'est, je pense, beaucoup l'INA. Hein, c'est des choses... De manière générale, je pense que Léo, quand il s'est beaucoup servi de la radio pour contrecarrer, si tu veux, des passages à vide ou des choses qui, en termes de disques, n'allaient pas. Et donc, tu vois, là, exemplairement, en 1959, il n'a plus de maison de disques, il peut pas sortir son album Aragon qu'il a dans les tuyaux. Bon... Il va contrecarrer ça, il s'est fait parce que comme il lui-même travaillait au début des années 50 à la radiodiffusion, et que je pense que on l'a pas assez souligné, mais c'est une période qui, en fait, c'est-à-dire que la singularité de Léo le rendait difficilement assimilable par rapport à l'état d'esprit général de la chanson dans les années 50, tu vois, un peu bon enfant, une ambiance pas forcément, enfin, un état d'esprit pas forcément prêt à recevoir un artiste comme Léo Ferré, tu vois, mmh, romantique, sophistiqué, enfin, je dis ça au bon sens du terme, hein, c'est pas compliqué pour compliquer, mais riche, tu vois, mmh, avec du sens, avec un propos critique, une distance. Et en même temps, il est arrivé dans un contexte quand même hyper favorable. C'est-à-dire que dans les années 50, les émissions de poésie à la radio, elles pullulent, quoi. Il y a une vraie volonté de démocratiser la poésie. La poésie est présente, en fait, si tu veux, dans les oreilles des gens. Je veux dire, c'est pas, y a pas Cyril Hanouna, tu vois. S'il n'y avait que des Cyril Hanouna à l'époque, Léo, il n'aurait jamais existé. C'était mort pour lui. Il aurait été inconnu. Donc, si tu veux, il y a quand même une forme de... J'aime pas le mot élite, mais une forme de il y a des gens intelligents, cultivés, sensibles, qui travaillent à la radio. Et en fait, je pense que Léo a quand même eu des soutiens. Tu vois, pas forcément par les professionnels du disque qui voulaient vendre de la vinylite, pas forcément par les éditeurs musicaux qui regardaient ce gars-là un peu comme un extraterrestre. Mais moi, j'achète pas trop, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que j'achète pas trop le récit de Léo seul contre tous, tu vois, le complot des médiocres qui savent pas reconnaître le génie du gars, quoi. Je pense que, comme je te disais, dès le départ, il a eu des aficionados. C'est pas ça qui suffit à faire une carrière, tu vois. Mais, mais il a eu un public fidèle, de mecs qui le suivaient. Il le dit lui-même, hein. Il disait, mais bon, seulement ça faisait 30 mecs qui me suivaient de cabaret en cabaret, c'était super, mais ça m'aidait pas à m'en sortir, quoi.
Tu vois. Remplit pas l'Olympia. Hein, c'est
sûr. Et puis, je pense qu'à la radio...
des contacts, des gens qui
Oui, bah, Francis Claude bossait à la radio. Je te disais qu'il l'avait invité dans beaucoup de ses émissions, ouais. Et il faisait faire des chansons. Donc, il créait une chanson nouvelle à chaque fois. Dont certaines, donc le métro, tous les documents là, c'est des chansons qui n'a pas, que je te disais, de circonstances. Et donc je pense que Léo les trouvait les meilleures, je pense qu'il les a enregistrées sur ses albums, comme Le Bateau Espagnol, tout ça. Selon lui, à ses yeux, parce que moi je les trouve très chouettes, mais elles sont peut-être, c'est plus des exercices de style pour lui, peut-être, tu vois, des chansons de genre, des choses comme... Et donc il a pris des contacts, dont... Bérimont, qui était aussi poète et tout. Et Bérimont le reçoit plus tard, dans les années, je dirais, début 53, 54. Et en 59, en fait, avec Bérimont, ils se mettent d'accord et il a une émission hebdomadaire, je crois. Et il le reçoit une fois par mois. Et donc, en fait, l'album La Mauvaise Graine, qui était sorti, c'était le principe, c'était qu'on avait à chaque fois la petite discussion introductive avec Bérimont et la chanson. Là, ce qui était très, très rigolo, c'est qu'en fait, tu le voyais chaque mois évoluer. Donc, tu vois, il arrive avec au début des Aragons, puis après, on découvre qu'il a bossé sur des Verlaine. Après, l'été passe, il dit « Ouais, j'ai vachement travaillé, j'ai 50 nouvelles chansons. » Tu vois, c'est rigolo.
Ouais, parce que, c'est très intéressant.
En fait, en fait, c'est le moment où il veut acheter son île, tu sais, près de Cancale là, et de Saint-Malo. Le Guéclin, là, où il va écrire La Mémoire et la Mer. Et en fait, du coup, il a besoin d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il va devoir, alors qu'il s'était émancipé des éditeurs musicaux, qu'il éditait lui-même dans son appentis, sous son toit, des petits formats pour distribuer les partitions de ses musiques, là, de ses chansons. Il va tout revendre, en fait, à un éditeur, les éditions Méridian, pour avoir une avance, avoir des sous et s'acheter son rêve, s'acheter son île. Mais donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'il produit beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, parce qu'il n'a pas d'obligation de faire des albums, il a du temps, il fait peu de scènes, tu vois. Alors, au regard officiel de la discographie, on a l'impression que c'est une année de creux, mais en fait, c'est une année où il travaille beaucoup et où il va produire beaucoup de chansons qui va écouler ensuite dans les années 60, tu vois. Et donc, c'est là-dessus que se terminent les documents, le troisième disque de documents. Ça documente un petit peu ça, quoi. C'est ce qu'il fait à la radio, à ce moment-là.
Et c'est, ma foi, très intéressant et fort, fort charmant. Hein. Il y a quand même des choses qui sont vraiment très, très charmantes dedans.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que... Enfin, ça dépend, parce qu'il y a des chansons où c'est réverbéré. Mais on a l'image, tu sais, le souvenir, peut-être, chez Barclay, sa voix est très réverbérée à Léo. Et donc, du coup, il y a un surplomb, tu vois, c'est un peu monumental parfois. Et là, dans ces enregistrements, bon, à la fois chez Odéon, mais aussi à la radio, je trouve qu'il y a beaucoup de naturel sur la voix. Et donc, c'est une forme d'intimité, de simplicité. Sur ces trois disques-là, c'est vraiment plein de petites surprises, en fait, de redécouvertes, des chansons qu'on pense connaître. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était. Particulièrement pour les gens qui collectionnent tout de Léo, qui ont tout de Léo. Bon, ils prendront le coffret aussi, sans doute.
Ouais.
Mais pour des gens qui croient connaître le répertoire, au-delà de la mise en forme qui rend l'œuvre et le parcours dans l'œuvre intelligible, tu as ces petites pépites-là qui te surprennent, forcément. Donc,
qui sont très, très belles.
Rappelle-toi, mon ange, cette neige de nuit avec mes cheveux gris, les chiens qui s'ébrouaient des flocons de tes yeux, ce rempart d'herbes tristes et de moutons anxieux, cette alpe camarade accoudée à ton lit. Rappelle-toi, mon ange, le sourire de Dieu qu'on touchait de la tête, la montée à la paille avec le vent debout et tout debout là-haut, la tendresse à genoux qui nous rafraîchissait le dos avec nos bêtes. Rappelle-toi, mon ange, ces fleurs de la vertu hautaine et leur fumée qui ressemble aux fumées de tes fleurs de la lune et que j'allais chercher comme on cherche fortune au bout d'une perdrix que je n'osais tirer. Rappelle-toi, mon ange, si je meurs avant toi, je veux que, vagabonde, tu souffles un vent de tous les diables au cul des gens, apprenant notre amour à leur cœur impotent et que Dieu, voyant ça, signe la fin du monde. Rappelle-toi, mon ange, et si tu meurs devant, je suivrai à la trace, comme le chien perdu, sans collier ni pâté, recherche tendrement son chagrin à la place où son bonheur si bêtement s'est arrêté.
Ça s'intitule La vie moderne, 1944-1959. C'est une intégrale de Léo Ferré, à qui on dit un grand merci à cette occasion. Et puis, merci à toi, Alaric, d'être passé jusqu'au studio de Radio Libertaire pour nous présenter ça merci de la vous. Manière la plus précise et puis la plus enthousiasmante également, parce qu'au-delà de toutes les précisions, on sent qu'il y a beaucoup de passion lorsque tu parles de tout ça. Et je suis sûr que ça sera partagé par nos auditeurs et auditrices. Merci encore, merci Alaric.
À la prochaine.
À très bientôt.
C'est la fin du Ferré Club. À la semaine prochaine.